Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle est au salon, comme la première fois. La grand-mère dit en le voyant, « Ah, voilà mon petit cosaque. Mais cette fois, vous allez faire qu'une simple promenade. Promettez-le-moi. » Il lui dit, « Je vous le promets, je serai sage. » Catherine dit à sa grand-mère en lui montrant, « Il m'a apporté des fleurs. Donnez-les-moi, je vais les mettre dans un vase. » Et ils sont partis. Elle le laisse conduire parce qu'une jeune fille ne conduit pas quand elle est accompagnée d'un jeune homme. La promenade se passe plutôt tristement pour lui. Il se sent gauche, mais c'est quoi lui dire? Et puis elle est tellement belle qu'il n'ose pas la regarder. Elle sourit en coin en le voyant gauche et timide. Il ne sait pas quoi se dire. Elle essaye de lui poser des questions sur la ferme. Lui a honte. Il a honte parce qu'il a peur qu'elle le prenne pour un paysan. Ils se sont arrêtés dans un chemin. On marchait dans un petit bois. Elle trouve cette promenade fort ennuyeuse. Il se dit, il aurait mieux aimé être loin d'elle que près d'elle. C'est plus facile de l'aimer loin d'elle. En fin de journée, lorsqu'elle retrouve sa grand-mère lui dit « Il a l'air assez nigaud et tu as vu comme il est habillé. Ne lui donne pas trop d'espérance. Je me suis renseigné sur lui. Tu as donné un autre rendez-vous ?» Catherine lui dit « Non. » Et il semblait triste en me quittant. Lorsque Yann retourne à la ferme, il est effondré, retrouve sa sœur près du feu. Il lui dit en pleurs, ça a été un enfer. Je me suis conduit comme une personne ridicule. Il ne voudra plus me revoir. S'assoit à ses pieds, face au feu, et lui caresse les cheveux et lui demande « Qu'as-tu fait ?» Il dit « Rien, justement. Je ne savais pas quoi faire pour dire j'étais près d'elle. Nigo, muet, a dû me prendre pour le simplet du village. » Sa sœur sourit et lui dit « Mais non. » Et puis elle a vu la première fois ce dont tu étais capable. Elle en a été éblouie et lui demande « Tu crois ?»« Oui. » Et elle, comment était-elle ? Il ose ses épaules comme une fille bien élevée qui ne doit pas faire le premier pas et attendre. Elle a essayé de me parler, mais elle aussi ne savait pas quoi me dire. Et puis, elle m'a demandé des choses sur la ferme. J'avais honte qu'elle me prenne pour un paysan. Elle lui dit, tu n'es pas un paysan, tu es fils de propriétaire. Tu vis de tes rentes, moi aussi. Il lui dit, c'est vrai, il n'y a que Luc qui est paysan ici. Cette réponse attriste Jeanne. Mais elle aimerait que ce soit vraiment vrai, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun lien entre Luc et eux pour qu'elle puisse l'aimer. Élu paysan ou non, à cause de son père, porte son nom. Dans sa tête, porter le même nom, c'est avoir le même sang. Le vouloir, c'est la même chose que s'ils étaient vraiment frères et sœurs. Il y a un sens de la filiation très primaire, peut-être ignorante de ce qu'elle veut vraiment. Puis, elle est ignorante de ce que c'est vraiment que le lien du sang. Né de la même mère, etc. C'est ça qui crée son drame. Elle dit à son frère, te fais pas de soucis. Tu n'as rien fait de mal en ne parlant pas. Comme ça, ça t'a permis de ne pas dire de bêtises. Et puis, ça lui a permis. permis de te voir à la dérobée, tout à sa guise. Et elle a dû apprécier ton physique avantageux. Il demande, c'est vrai? Oui, bien sûr. Il se sent moins démoralisé. La grand-mère s'est renseignée au village. Et ce qu'elle a appris ne l'a pas bien plu. C'est un bon à rien qui passe son temps au café à jouer aux cartes. Pendant le dîner, elle le dit à sa fille, à sa petite fille peut-être plutôt. Je me suis renseigné. Ce n'est pas un garçon bien. Il faut arrêter de le voir. Tu lui ferais du mal. Fais-lui comprendre poliment, parce qu'il t'a sauvé la vie. Catherine lui dit, il me semblait bien gentil et calme. La grand-mère lui dit, il joue aux cartes. Catherine lui dit, c'est sans doute pour ça qu'il est si taciturne. Jeanne ne sait comment faire. Il aimerait revoir Catherine. Surtout pour savoir si elle veut toujours le revoir. Il est très inquiet malgré ce que lui a dit sa sœur. Mais il ne sait pas comment faire pour la revoir. Elle ne lui a pas donné de rendez-vous. Alors comment faire ? Sonner chez elle? Ça ne se fait peut-être pas. Et quoi lui dire? Qu'il vient la voir comme ça? Ça ne se fait pas. Il va tous les jours au bourg. Mais aller au café ne lui dit plus rien. Il tourne dans les rues comme une âme en peine. Se dit que peut-être il la rencontrera. Mais non. Mais non. Il n'ose pas aller dans sa rue. De peur d'être vu. Parce qu'il souhaite la voir et en même temps, il en a peur. Il en aurait honte. Que lui dire? Que lui dire s'il la trouve dans la rue? Elle risquerait d'être furieuse et penserait qu'il la surveille. Quelle honte! Que faire? Comment faire? Pourtant, il désire la voir. Et pourquoi n'a-t-elle pas donné un rendez-vous? Un autre rendez-vous? Pourquoi ne m'a-t-il pas donné un autre rendez-vous la dernière fois? C'est sûrement parce qu'elle ne veut plus le voir. Toutes ces questions le rendent malade. Il rentre le soir, abattu. Ne mange plus, ne dort plus. lendemain matin, sa sœur lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils sont seuls assis à la cuisine. Il lui dit « Je ne peux pas la voir. » Elle lui demande « Tu es allé la voir ?»« Non. » « Eh bien, prends ton courage à deux mains et va la voir. » L'après-midi, très excité et ému, il sonne au portail. Et attend, anxieux. Le petit portail s'ouvre, surpris, voit que c'est une femme grande, forte, dans les 50 ans, blonde. Elle porte une robe grise sous un tablier blanc.
Vous désirez, monsieur ?
J'aimerais c'est parler à mademoiselle Catherine.
Vous êtes ?
Je suis Yann Terman. Elle fait
« Ah, oui, madame m'a dit de vous faire entrer.
Si je vous vois, elle va vous parler. Veuillez me suivre. » Il entre. Et elle le mène à sa maîtresse.
Entre dans la maison.
Veuillez me suivre. Ta maîtresse est toujours au salon. Frappe à la porte. Entre. Et ressort.
Vous pouvez entrer, monsieur.
Il entre. Et ferme la porte derrière lui. Et reste assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Lui dit
« Approchez-vous, monsieur !»
Il s'approche. « Bonjour, madame. »«
Bonjour, mon petit. » »«
Asseyez-vous. » Il va s'asseoir.
« Comment allez-vous ?»«
Bien, madame. » Elle lui dit
« Vous êtes venue pour la petite. »
Il lui dit « Oui ? » Elle lui dit
« Oui, bien sûr. Bien sûr, ma petite fille est absente. Mais je tenais à vous voir. Comment dire ? Il serait préférable que vous ne la fréquentiez plus. Quoique vous ayez rendu un très grand service et que vous soyez un charmant jeune homme. » Je le confirme d'ailleurs. Vous avez rendu un inestimable service. Et si vous aviez besoin d'une somme, je peux.
Il est triste d'être rejeté parce qu'il est congédié. Elle le voit triste. Ça lui fait de la peine. Elle lui dit
« Je vous comprends, mais ne soyez pas triste. Vous comprenez ?» Vous n'êtes pas du même milieu que nous. Et si ma fille s'attachait trop à vous et vous à elle, vous en souffriez. Vous voyez ma fille vivre comme une paysanne. Vous avez de l'affection pour elle. Vous devez comprendre.
Il dit timidement, « Mais je ne suis pas paysan et je ne vis pas en paysan. » La vieille femme soupire. Il a honte parce qu'il sent qu'elle le prend pour un paysan. Elle le dénigre. Sa peine, pour le moment, est trop grande pour qu'il puisse avoir de la colère contre cette vieille femme. Il est triste, ne dit rien, et lui demande « Vous voulez du thé ?» Ne se sent pas le courage d'affronter l'épreuve du thé. S'aperçoit qu'il y a un fossé entre lui et elle. Leur façon de vivre, de se comporter, ne sont pas les mêmes. Il lui dit « Non. » Se lève. « Je vais vous laisser. » Elle lui fait « C'est bien. » Elle se lève. Elle le raccompagne jusqu'à la sortie de la pièce. Avant d'ouvrir la porte, elle sort de sa poche quelques pièces et lui tend. Il dit furieux « Non, comme vous voudrez. » Elle ouvre la porte. Il se retrouve dehors abasourdi. Puis, furieux, il se dit « Elle verra ce que je vais devenir. Plus riche qu'elle, elle le regrettera. Je ne suis pas un paysan. » Et il décide de finir la journée au café pour vivre comme un homme de la ville. Il retrouve des vieux et quelques jeunes. On lui fait fête. On lui demande pourquoi il ne venait plus. Yann se sent seul. Fini. Il ne la reverra plus. Il est triste. Lorsqu'il entre, il est dans un état d'ébriété important. Sa sœur n'ose pas lui parler. A peur qu'il soit violent. Lorsqu'il rentre le soir, il va à sa chambre de suite. L'air mauvais et pas hésitant. Il a vieilli. Elle ne le voit pas, Luc non plus. Il l'évite, ne se parle plus. Elle aimerait lui parler, mais n'ose pas. Comme la solitude lui pèse, Jean rêve, se rencontre, de rencontrer des personnes. Rêve d'une autre vie. Un après-midi où il fait un vent terrible, glacé. Le ciel est d'une lumière blanche. Luc est dans la cour. À couper du bois pour la cheminée. Il est près de la grange, de la porte de la grange pour se protéger du vent. Il voit arriver dans la cour un jeune homme d'un 25 ans à peu près. Il semble grand, mince, cheveux châtains, qui dépasse du chapeau, il a les yeux bleus profonds, le regard doux et distingué, il est à cheval. Il dit à Luc, « Pardon, mon brave. »«
Oui ?»
dit John, qui vient de sortir de la maison.
L'homme se tourne vers la jeune fille et lui dit,
« Bonjour, mademoiselle. Figurez-vous que je me suis perdu. Je ne connais pas assez bien le pays et j'habite le château de mon oncle, le prieuré. Pouvez-vous m'indiquer dans quelle direction je dois aller ? » Elle lui dit,
« C'est assez loin, vous devez prendre la route là, tourner à droite et contourner les collines, ces collines qui sont là. »
Il lui dit, « Mon cheval est fatigué, pourrais-je le reposer un peu ?»
Jeanne trouve toute heureuse d'avoir un beau jeune homme si distingué, lui dit, « Oui, bien sûr. Descendez de cheval, Luc va s'en occuper. »
Luc est furieux et le prend pour un domestique. Il pose sa hache et va vers l'homme. L'homme descend de cheval et dit, « Tenez, lui, un peu d'avoine, mon brave. »
Et il tend la bride du cheval à Luc, qu'il a, puis la prend pour mener la bête à l'étable.
Il entend l'homme dire, « Je suis fourbu, et ce vent, et c'est sera tout jamais. »
Jean lui dit, « Oui, c'est très vanté, mais nous y sommes habitués, et nous y trouvons du goût à ce temps. »
Il lui dit, c'est impossible.
Qu'elle fait, n'est pas resté dehors. Venez, allons à la maison.
Et il la suit. Il se découvre et entre.
Le manque de clarté l'empêche de bien voir la pièce.
Il voit un bon feu de cheminée.
Elle lui dit, allez vous asseoir près du feu.
Il va s'asseoir près du feu. Il lui montre une chaise. Il s'y est assis.
Elle reste debout devant lui et lui demande, « Vous désirez boire quelque chose ?»
Il lui dit, « Oui, merci, je veux bien
du vin, si vous en avez.
Oui, bien sûr.
Et va le lui chercher.
Elle le trouve charmant. Et lui la trouve très belle.
Lui tend le verre.
Il boit et dit:
il est excellent.
Elle sourit:
je me sens mieux que tout à l'heure. Vous aimez le ventre, ce temps.
Elle fait: oui, j'aime le vent. J'aime courir dans le vent. Ça m'enivre.
Il lui fait:
comme le vin?
Plus. Je suis la fille de la nature, lui dit.
Moi, pas vraiment. Quoique nous sommes tous de la nature.
Elle se dit: il parle bien. Je parle à un châtelain. Et qui a l'air très gentil. Poli comme tout.
Il se sourit.
Il demande:
vous vivez toujours ici?
Elle lui fait: oui, et depuis toujours.
Il lui dit: c'est dommage, une belle jeune fille comme vous.
Un diamant doit être en pleine lumière.
Elle rougit et lui dit:
vous êtes très bon, mais si vous, vous habitez toujours ici?
Il lui dit:
je viens d'arriver. Je ne suis pas d'ici. Et je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai fini des études. J'ai un diplôme. Je m'occupe de prêts, de ventes, d'emprunts.
Elle lui dit: je vois, ça doit être très compliqué.
Il lui fait:
oh, mais c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai des banquiers pour ça. Des hommes d'affaires qui connaissent bien les lois et toutes ces choses-là.
Lutte entre dans la pièce, il est furieux. Il est sale. À des bottes crotteuses.
Il le regarde.
Il croit sortir leur dédain.
Luc leur dit: le cheval a mangé.
Catherine lui dit:
c'est bien, tu peux disposer.
Il lui dit: j'ai faim.
Et s'assoit à table.
Il veut l'humilier devant ce froliquet.
Il veut qu'il la voie le servir.
Mais elle reste près du jeune homme et lui dit:
il y a du pain et du saucisson dans le buffet.
Furieux,
il ouvre le buffet.
Pour prendre le pain et le saucisson.
Assis à table pour manger.
Le jeune homme soupire.
Elle est furieuse et se dit que le beau jeune homme n'osera plus lui parler parce que Luc est là.
Elle aimerait voir Luc au diable.
Le jeune homme, voyant qu'il ne pourra plus parler, se lève et dit:
je suis très je vais vous quitter.
Elle lui fait: déjà?
Oui, et puis j'ai du chemin à faire.
Vous avez dit vous-même que c'était assez loin.
Comme un imbécile, j'ai laissé mon cheval sans me rendre compte de la distance. Et lui a dû être enivré par votre cher vent, que vous aimez tant. Il lui dit, bien, Luc, va amener le cheval. Luc, amène le cheval à monsieur. Luc est furieux. Il jette son couteau sur la table. Et se lève. Le jeune homme dit à la jeune fille, je ne me suis pas présenté. Je m'en excuse. Je m'appelle Henri Thévenet. Elle fait, et moi Jean Thermann. Luc hausse ses épaules et sort de la maison. Ils le suivent. Et Luc va chercher le cheval qui part le plus vite possible. Il le mène au jeune homme. Le jeune homme dit, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur. Et il monte en selle. Jean retourne à la ferme, Luc furieux aussi. Il se met à table et continue à manger. Elle lui dit furieuse, t'avais donc tant faim que ça? Il lui dit, oui. Elle lui dit, t'aurais dû attendre qu'il soit parti. Il ne dit rien. Luc passe sa journée à broyer du noir. Elle a rêvé au beau jeune homme si poli. Elle pense à lui constamment. L'aimerait aussi. Extérioriser sa joie. Et si heureuse d'avoir rencontré un si gentil jeune homme. Et si beau, si distingué. Le soir, il faut qu'elle parle de lui. Parce qu'en parlant de lui, elle le fait revivre. Comme son frère, lorsqu'il rentre, il est dans un état lamentable, qu'il ne peut parler, alors... Elle va s'asseoir à côté de Luc, sur la balustrade. Il sursaute et dit, tu aurais pu être un peu plus poli avec le jeune homme de tout à l'heure. Il ne lui répond pas. Il se dit qu'elle est venue pour me parler de lui. Elle lui demande, comment le trouves-tu? Il lui dit, rien. Il est, comme on dit déjà, ah oui, fa, il parle. Préciosité, elle lui dit, tu es dur, et puis s'il parle comme ça, c'est parce qu'il est poli. Elle lui dit, il parle comme ça, c'est parce qu'il se prend pour de l'importance. Elle lui fait, c'est quelqu'un d'important, lui demande, et moi, c'est pas bien de m'avoir traité comme un domestique. Ton père n'aurait pas aimé ça. Elle lui fait gêner, mais comment je devrais te traiter,
et lui dit, comme un membre de la famille, et celui qui a la ferme. Elle lui dit, je n'ai pas été désagréable. Il se lève et lui dit, vous ne m'aimez plus. Il se sauve en courant. Et triste, au fond d'elle-même, elle l'aime toujours. Mais elle sait qu'il faut qu'elle en aime un autre. Mais elle ne devrait pas être désagréable avec lui. Elle a mal aussi. Elle s'est mal comportée en le traitant comme un domestique. Elle aurait pu dire, mon frère va s'occuper de votre cheval. Le jeune homme, sachant que c'est son frère, l'aurait traité bien comme elle. Elle a mal. Et a très mal. Luc ne le mérite pas. Et puis, elle ne veut pas lui faire du mal. Elle aime en secret. Alors, elle court dans le vent, le rattraper. Oui, le rattraper. Elle arrive à lui, essoufflée, les chevaux au vent. Il a déjà les yeux. Elle lui dit, je te demande pardon. Je te demande pardon. Elle voit que lui aussi a les larmes aux yeux. Ses larmes lui démontrent qu'il l'aime encore. Ça lui fait mal et peur parce qu'elle se dit qu'elle ne peut que lui faire du mal parce qu'elle ne peut répondre à son amour. Elle lui demande, tu me pardonnes? Il la trouve si triste, la prend dans ses bras et lui dit, oui. Elle lui dit, j'agis tout comme une enfant bête et stupide. Il ne lui dit rien. Elle l'emmène en lancée dans la campagne. Il lui dit, nous sommes les enfants du vent et de l'orage. Laissons-nous guider par lui. Écoute le vent. C'est les battements de notre corps. Et ils ont marché un long moment, sans se parler. Elle est heureuse d'être ainsi. En retournant, il retrouve près de la porte Yann, l'air mauvais. Il leur demande, où étiez-vous? Luc tient contre lui Jean. Luc lui dit, nous nous sommes promenés. Yann lui dit, laisse ma soeur tranquille. Et il le pousse. Luc d'instinct pousse Jean. Là, Yann lui donne un coup de poing à la figure. Luc tombe à terre. Jean l'en crie, arrêtez, vous êtes fous tous les deux. Luc se retourne, se redresse, fait face à Yann, qui fait tomber à terre, roule tous deux en lancé, puis Luc a le dessus, il plaque Yann à terre et lui donne des coups de poing à la figure, à la poitrine. Yann, d'un geste brusque, le fait rouler et se trouve sur lui et lui tape. Jean paniqué ne sait que faire. Les deux garçons roulent en lancé, roulent dans la terre et le vent. Luc est sous Yann qui le tape. Tout d'un coup, un torrent d'eau les surprennent et les font s'arrêter. Relevez-vous ! Ils se retournent et voient Jean avec un seau d'eau et leur dit, si vous continuez, j'en jette encore. Ils se redressent, trempés et humiliés, et leur crient, allez dans vos chambres, vous êtes dégoûtants, de vrais sauvages. Yann lui dit, n'avez qu'à pas te toucher. Elle lui dit, ça me regarde, ça ne te regarde pas. Tu es ma sœur ? Et il la quitte. Luc, mouillé, le visage en sang, va dans sa chambre à la grange. Une fois dans la grange, il se déshabille. Prend une serviette, ou plutôt un torchon, et s'essuie, il est trempé. Puis, se couche. Il a le visage en sang. La grange a été aménagée. Il y a mis un lit, une armoire, une table et une chaise. Il ira dans la maison que lorsque le frère et la sœur seront partis, à moins que la sœur veuille de lui. Il essaie de trouver le sommeil. Il a mal de partout. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.